les cinémas du monde.
Mr. Brown. Mr. White.
Si vous faites un geste un peu brusque, un peu louche, vous prenez une balle.
Mr. Orange.
Sans préavis, ni question.
Pourquoi le passager est enfermé là-dedans?
Parce que c'est une voiture de tournage.
Je veux vous entendre dire j'ai saisi.
Tous autant que vous êtes, vous me fournirez 100 scalps nazis prélevés sur la tête de 100 cadavres nazis.
La langue, bougre de fiottes, est-ce que tu comprends ce que je dis?
Oui.
Alors, tu comprends ce que je dis?
Oui.
Décris-moi Marcellus Wallace. Hein, de quoi il a l'air?
Tu as buté Mélanie Double, dans le parking.
Tu pouvais pas lui causer?
Ben, qu'est-ce que tu veux causer, tu sais?
Tu pouvais pas la cogner?
Sophie.
Oh, excuse-moi, je t'ai coupé, là. Qu'est-ce que tu disais?
Sophie Torlotin.
Le coup est parti tout seul. Je t'en prie, continue.
Elisabeth Le Quéré.
Le Réservoir Dogs aux 8 salopards, il a révolutionné le cinéma américain avec son style unique, fait de violences esthétisées et de dialogues percutants. Sa légende est désormais gravée dans le marbre hollywoodien, celle d'un gamin fauché qui vendait des cassettes VHS dans un vidéoclub californien, devenu en deux films le roi du cinéma américain indépendant. Bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée à Quentin Tarantino à l'occasion du cycle que lui consacre Arte, 5 films, Reservoir Dogs, les deux Kill Bill, volume 1 et volume 2, Jackie Brown et Boulevard de la Mort, et deux documentaires, tous à dispo sur Arte TV et YouTube jusqu'à la fin du mois de septembre. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Ce samedi, dans tous les cinémas du monde, cap sur Hollywood, ses palmiers, ses studios et son enfant prodige.
Beaucoup de personnages m'habitent quand je quitterai cette enveloppe mortelle. J'espère que les gens se souviendront d'abord de mes personnages, pas tant des scénarios. Vous savez, je fais des films de genre. Mes scénarios sont des scénarios de films de genre que je tords plus ou moins dans tous les sens. Mais j'espère que mes personnages me survivront.
Quentin Tarantino, on est en 2019 au Festival de Cannes. Et c'est vrai qu'il a créé des personnages inoubliables, les deux tueurs de Pulp Fiction, les Inglourious Basterds et tant d'autres dont vous allez nous parler. Laurent Vachaud, bonjour.
Bonjour.
Scénariste et critique de cinéma, spécialiste entre autres de l'œuvre de Stanley Kubrick. Vous êtes aussi un tarantinophile revendiqué. Avec des réserves, on en parlera. Vos personnages préférés de Tarantino?
Pratiquement tous les personnages de Pulp Fiction, l'héroïne de Kill Bill. J'aime beaucoup le personnage de Jackie Brown et le personnage que joue Robert Forster, mais je suis pas fan de tout ce qu'il y a en dehors de ces deux personnages dans le film. C'est-à-dire que je trouve moins passionnant, mais je pense que c'est un de ses personnages les plus réussis, Jackie Brown, même si j'ai des réserves sur le film. Et j'aime beaucoup aussi dans le dernier, les deux, là, comment Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, le tandem de la star déclinante et de son homme à tout faire.
Dont il était une fois à Hollywood.
Voilà. Et j'aime bien aussi Inglourious Basterds avec le commando des soldats juifs qui doivent abattre les nazis. Non, vraiment, moi, le seul que j'aime pas beaucoup, en fait, c'est celui qui s'appelle Boulevard de la Mort, avec l'histoire du cascadeur là, qui jouait par Kurt Russell. Disons que c'est le seul que je regarde vraiment moins et que, avec le temps, je trouve pas si génial que ça. Mais il a beaucoup de partisans.
Alors avec vous, Laurent, nous allons parcourir la filmographie de Quentin Tarantino. 9 films à ce jour et une recette gagnante, humour, BO punchy, ultra-violence. Ce qu'on dit moins, c'est qu'il a un sens de la mise en scène extraordinaire, non ?
Ah oui, non. Il a une image comme ça de gamin cinéphile qui fait des références, qui cite toute une culture bis, que ce soit le karaté, la blaxploitation et tout ça. Mais on met rarement en avant quand même son sens de la mise en scène. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a un sens de l'espace, qui sait vraiment faire exister des personnages dans le cadre, dans un espace, puisque des Reservoir Dogs, c'est quand même un espace extrêmement étriqué comme ça, dans lequel il arrive quand même à se mouvoir avec une grande facilité, surtout pour un débutant. Il arrive à jouer avec les structures narrative. Non, mais c'est un grand metteur en scène. C'est ça qu'il faut quand même rappeler, parce qu'il a une image de rockstar un peu, maintenant, dans lequel on agglomère comme ça plein de choses.
Et c'est vraiment, comme il l'a dit, le vidéoclub où il a travaillé, qui a été un peu son école, comme alors, d'une certaine manière, je ne sais pas si c'est aussi un clin d'œil, comme les cinéastes de la Nouvelle Vague, eux, ont été à l'école de la Cinémathèque.
Oui, je pense que c'est très comparable. C'est-à-dire que puisque le vidéoclub implique souvent une culture bis, parce que vous avez énormément de films qui sont en accès célèbre justement de ces cinémas de série Z un petit peu. Donc lui a baigné là-dedans. Hein. Après, il a carrément créé une école. C'est-à-dire, je pense qu'il a, il a fait naître dans la tête de plein de gens qui travaillaient dans les vidéoclubs que tout le monde pouvait devenir metteur en scène comme ça facilement. Mais je pense que la comparaison avec les critiques des cahiers, enfin, ou des gens comme ça, même si c'est peut-être un milieu moins intellectuel, le vidéoclub, c'est tout à fait juste, hein, puisque c'est des gens qui, toute la journée, bah, finalement, sont vivent au milieu des cassettes, bah, voient des films toute la journée, et souvent des films que personne ne connaît, c'est-à-dire des raretés, des espèces d'incunables, de choses comme ça. Et souvent, dans ces cercles-là, il y a une espèce, on ne parle pas de Citizen Kane, vous voyez, ou de 8,5, ou de films comme ça, c'est-à-dire on s'affronte sur des cinématographies extrêmement marginales.
On va vers les voies de traverse.
Voilà. Et ça devient une sorte de truc un petit peu de club, hein, souvent de men's club, hein, c'est souvent assez masculin.
De Boys Club. Bon, alors voilà. On parlera tout à l'heure, Laurent Vachaud, de ses débuts fracassants dans le paysage cinématographique mondial. C'était à Cannes en 1992. Mais avant, on reste dans l'univers tarantinesque avec Bang Bang, Nancy Sinatra. C'est la BO de Kill Bill. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Vous êtes bien sur RFI, émission spéciale consacrée à Quentin Tarantino à l'occasion du cycle que lui consacre Arte avec vous, Laurent Vachaud. Donc je disais, hein, Tarantino, 9 films au compteur et un 10e qui est d'autant plus attendu, hein, que Tarantino dit depuis longtemps qu'il ne fera que 10 films et pas un de plus. Est-ce qu'on connaît déjà le sujet?
Vous savez, moi je crois que c'est un peu comme les rockers qui disent, ou les chanteurs qui disent, c'est mon dernier...
c'est ma dernière séance.
C'est mon dernier Olympia. Ou c'est mon... Je pense qu'il y a un moment, après ils ne savent pas faire autre chose. Lui, il dit qu'il sait faire autre chose, il veut écrire des livres, il veut s'intéresser à l'histoire
du cinéma. Il a publié un livre.
Dans lequel on le retrouve complètement d'ailleurs, mais... Bon, oui, le 10e film...
Pourquoi il a dit 10, d'ailleurs, selon vous?
Je sais pas, peut-être que c'est...
C'est un coup marketing.
Ouais, bon, moi, j'y crois moyen. Mais bon, wait and see.
Alors, wait and see, on va amorcer le compte à rebours. Dans le huis clos d'un hangar, les survivants d'un hold-up traqué par la police se cachent et s'affrontent. Évidemment, ça va se finir par un bain de sang et de violence, une violence qu'on n'a jamais vue comme ça. Au cinéma.
Dès que j'ai entendu l'alarme, ils étaient
à la porte. Non, ça s'est pas passé aussi vite que ça. Écoute, c'est juste qu'ils ont pas pointé le bout du nez jusqu'à ce que Monsieur Blonde se mette à bombarder. Je dis pas qu'ils étaient pas là. C'est vrai qu'ils étaient là. Mais ils ont pas bougé jusqu'à ce que Monsieur Blonde ouvre le feu sur tout le monde. C'est pour ça que je suis sûr qu'on a été piégés. Enfin, Monsieur White voit les choses en face.
Écoute,
c'est clair,
oh,
ça, non?
Arrête ton Monsieur White à
la con. Ça va. Ne me dis surtout pas ton vrai nom, je veux pas le savoir, ton nom. Merde, si tu crois que je vais te dire le mien.
Reservoir Dogs, 1992, premier film de Quentin Tarantino. Exercice de style brillant sur le polar, coproduit et interprété par Harvey Keitel, part au Festival de Cannes, projeté en séance de minuit et tout de suite, Laurent Vachaud, c'est le succès.
Oui, oui, c'est ce qu'on appelle, je crois que c'était une midnight screening, hein, c'est-à-dire c'est ces films qui passent une seule fois à minuit et qui sont souvent des films un petit peu fantastiques, gore, avec beaucoup de violence. Mais tout de suite, quand même, moi je me souviens que des gens, par exemple comme Michel Simon, hein, qui n'étaient pas spécialement fans des films gore.
Donc de la revue Positif.
Voilà. Il y a tout de suite eu une adhésion immédiate, quoi, qui a trouvé que c'était quand même un style qu'on n'avait jamais vu avant, ou en tout cas une recombinaison de choses comme on les avait jamais vues, et qui a tout de suite dit que c'était quelqu'un de très grand, quoi. Alors, Michel a été un peu moins fan après des tout derniers, mais en tout cas, il y a eu une adhésion immédiate, parce que je pense qu'il a, il a tout de suite reconnu un peu les citations, hein, parce que c'était quand même une sorte de remix de films comme L'Ultime Razzia, vous voyez, qui décomposait un petit peu
de
la
Kubrick.
Structure temporelle. Bon, après, moi, je trouve, c'est ce qu'il dit souvent lui, hein, c'est-à-dire ses intrigues ne sont pas spécialement originales, puisque c'est des archétypes, hein, c'est-à-dire qu'il prend, vous voyez, Pulp Fiction, c'est vraiment les clichés, c'est-à-dire le boxeur un peu corrompu, enfin, et tout ça, c'est la manière dont il recombine tout ça, et comme souvent après, comment il les fait dialoguer, hein, parce que c'est pas tellement des films d'action, c'est des films où la parole devient l'action, hein, c'est-à-dire qu'il filme la parole comme de l'action, c'est-à-dire ça, c'est quand même quelque chose qu'on avait rarement vu, et il est capable de dilater, c'est-à-dire de faire durer des conversations, mais extrêmement longtemps, et on en garde bizarrement l'image de quelqu'un qui fait des films d'action, alors que c'est pas tellement vrai, il y a des scènes d'action, hein, comme dans Inglourious Basterds. Mais moi, je ne dirais pas que c'est un cinéaste de l'action, Tarantino.
Mais on parlait beaucoup de la violence au moment de sa sortie, entre autres à Cannes. Alors, certains critiques sont très enthousiastes, citant, rappelant la découverte de Scorsese au temps de Mean Streets. D'autres sont plus circonspects. Je cite la critique du Monde, hein. Quelques ablations d'organes, crémation et revolverisation plus tard. On a plus grand intérêt pour cette chorégraphie macabre, mais déjà envie de voir le prochain film du réalisateur.
Quand vous faites un cinéma radical, comme ça, avec des scènes violentes, hein, généralement vous déplaisez, hein, y a des gens qui n'aiment pas ça.
Vous, qu'est-ce qui vous a frappé quand vous l'avez vu pour la première fois?
Moi, j'ai pas pensé à Scorsese, moi j'ai pensé à Reservoir Dogs, moi j'ai pensé
la violence, les dialogues.
Ouais, mais moi j'ai pensé par exemple à. J'ai vraiment vu la ressemblance, enfin les similitudes avec certains films de Brian De Palma plutôt que de Martin Scorsese. Par exemple, vous voyez tout ce qui est dans une des scènes les plus célèbres de Reservoir Dogs, hein, qui est quand il coupe l'oreille du flic, la manière dont c'est mis en scène, moi ça m'a complètement rappelé la tronçonneuse dans Scarface, hein, la scène de la tronçonneuse quand la caméra part à l'extérieur de la salle de bain pour aller voir le complice de Tony Montana qui est dans la rue en train de draguer une fille au soleil où on n'entend plus du tout le bruit de la tronçonneuse et qu'il y a ce mouvement de grue où on revient après dans la salle de bain où là il y a du sang partout, vous voyez, enfin, c'est là la façon dont il montre le type qui sort du hangar pour aller chercher le bidon d'essence dans la rue où on entend les petits oiseaux, où on est au soleil, et on ne se rend pas compte que tout d'un coup, on retourne dans ce hangar où c'est carrément l'enfer, où là, tout d'un coup, il y a la musique. Donc, le jeu aussi de montrer des choses qui sont plus de l'ordre de l'imaginaire. C'est-à-dire que vous ne voyez pas l'oreille se faire couper dans Reservoir Dogs, hein, puisqu'il y a un mouvement. Hein, mais il y a plein de gens qui ont cru l'avoir.
Le jeu sur le hors-champ.
Voilà. Et dans Scarface, c'est exactement pareil. C'est des metteurs en scène qui travaillent quand même avec votre anticipation de ce que vous pensez avoir imaginé. Et vous ne l'avez pas vu, vous l'avez juste imaginé.
Il travaille sur votre cerveau. Et voilà. À l'époque, Tarantino, ce n'est pas tout à fait un inconnu. Il a signé deux scénarios qu'il n'a pas réussi à réaliser, True Romance et Natural Born Killers.
Mais qui n'était pas sorti, je crois, encore. Hein.
Qui n'était pas sorti.
Qui était en tournage, je crois, mais qui n'était pas sorti.
À l'époque, et c'est un film très fauché, Reservoir Dogs. Je crois qu'on demande même... Alors d'ailleurs, le lieu unique... Oui. Et le signe que c'est un film... Enfin, il a peu d'argent pour faire son premier film.
Il était avec des contraintes de production, comme souvent, hein, dans les premiers films. Hein, c'est-à-dire, mais il en a tiré vraiment le maximum. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « Oh là là, on voit pas les hold-up, machin. Ben, » Ils auraient voulu voir, en fait, ce qu'on voit dans tous les films. Hein. Là, lui, il a réussi quand même à transformer... Et ça, c'est une vraie qualité de metteur en scène. C'est-à-dire transformer des contraintes économiques en atouts. Hein, c'est-à-dire, c'est justement faire beaucoup avec peu. Donc, il y a des éclairs où
mais
on
il a
voit...
sûrement appris ça en voyant des séries B hollywoodiennes.
Je pense que vous savez, quand vous voyez beaucoup de films, ça devient presque inné après. C'est-à-dire que je pense qu'il a... Ce qui est quand même singulier chez Tarantino, c'est qu'il a réussi à développer un style extrêmement personnel. C'est quelqu'un qui a vu des 10 000 films, qui cherche... Mais il n'a jamais cherché à imiter exactement hein, les films qu'il voyait. C'est-à-dire qu'il se les a réappropriés, il les a réinventés, il les a recombinés, il les a décomposés souvent, parce qu'il les a déstructurés, il a mis le début à la fin, vous voyez, des choses comme ça. Et voilà, c'est plus dans « il fait comme un tel », c'est plus le fait qui est important que le comme un tel. Quoi.
Et donc, si Reservoir Dogs a révélé Quentin Tarantino à Cannes, c'est toujours Cannes qui va lui apporter deux ans plus tard la consécration. En 1994, Pulp Fiction rafle la Palme d'Or au Festival de Cannes. Donc, place à Vince et Jules, John Travolta et Samuel L. Jackson, deux tueurs à gages. Dans cet extrait devenu culte, Vince escorte la maîtresse de son patron, Uma Thurman, pour une sortie en ville.
Et maintenant, quel sera le recouple qui gagnera le superbe trophée que Marilyn nous fait voir? Alors j'appelle nos fringants danseurs et danseuses.
Là, j'ai envie de danser.
Non.
J'ai cru comprendre que Marcellus Wallace, mon mari, ton patron, t'avait demandé d'être trop petit soin avec moi et de satisfaire mes moindres désirs. Alors je veux danser, je veux qu'on gagne et je veux avoir ce trophée.
D'accord.
Alors à toi de jouer.
D'accord.
Voici le premier concurrent, on les applaudit bien fort. Je vous présente donc ces deux sympathiques concurrents. Veuillez dire votre nom, chère madame.
Je m'appelle Mia Wallace.
Et le nom de votre cavalier?
Vincent Vega.
Voyons ce que vous savez faire. En avant la musique!
Scène culte, Laurent Vachaud de Pulp Fiction, la femme fatale, une mallette mystérieuse, Eros et Thanatos, c'est tous les tropes du film noir.
C'est ça, oui, c'est une sorte de catalogue un petit peu d'archétypes, hein, de clichés, de figures mythiques comme ça du film noir, qui nous fait voir comme on les a jamais vus avant. Hein, c'est-à-dire et surtout, il y a un génie du casting, c'est-à-dire qu'il faut quand même bien... Il sait écrire pour des très grandes stars, mais il sait les montrer aussi comme on les a jamais vus. Il sait ressusciter des stars déchues.
Ça, c'est John Travolta.
Voilà. Il faut quand même bien voir qu'au départ, John Travolta n'était pas prévu hein, dans Pulp Fiction, puisqu'il avait écrit le rôle pour Michael Madsen, qui est le fameux gangster qui coupe l'oreille du flic, auquel on faisait allusion tout à l'heure dans Reservoir Dogs. Et il y a un concours de circonstances qui a fait que Michael Madsen s'était engagé sur un autre film et qu'il n'a pas pu le faire. Et ils ont cherché d'autres acteurs, et c'était notamment le fameux producteur Harvey Weinstein qui disait à Tarantino qu'il ne voulait pas de John Travolta, qu'il fallait prendre Daniel Day-Lewis.
Qui était considéré comme très has-been.
Complètement has-been, donc ne pouvons pas amener du financement, vous voyez, c'est comme ça, il est plus bankable, comme on dit. Hein.
Mais là aussi, de la contrainte, il fait quelque chose de formidable, parce qu'il n'y a que Travolta qui peut danser comme ça.
Mais c'est devenu un concours de circonstances heureux, c'est-à-dire qu'il se trouve qu'il y avait cette scène de twist, imaginez avec un autre acteur, elle n'aurait pas eu la même résonance.
Et surtout hein. Michael Madsen.
Et puis surtout Michael Madsen, ou même Daniel Day-Lewis, ça aurait peut-être été bien, hein, ça aurait peut-être été marrant, mais ça n'aurait pas eu la résonance que ça a avec John Travolta.
Pour la fièvre du samedi soir.
Pour la fièvre du samedi soir. Et je pense que cette notion de ressusciter les morts, c'est-à-dire c'est presque des invocations funèbres, hein, les films de Tarantino, il y a cette volonté de faire revenir les morts de l'au-delà. Un peu, hein. C'est-à-dire même dans sa structure, dans Pulp Fiction, vous avez John Travolta qui se fait buter au milieu du film, mais qui est quand même à la fin, c'est-à-dire puisque c'est déstructuré, hein, puisqu'on revient en arrière, donc on voit qu'il est dans le restaurant à la fin, pourtant on l'a vu se faire tuer, donc normalement il devrait... Vous voyez, donc il y a cette volonté, même Pam Grier de Jackie Brown, qui était une actrice de la Blaxploitation, c'était une actrice oubliée, lui il la ramène, parce que c'est ces gens-là qui lui ont donné envie de faire du cinéma. Et il les fait revivre. Et non seulement il les fait revivre, mais il leur donne aussi leur meilleur rôle. Et ça, c'est ça qui est très touchant dans son parcours. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est quand même un cinéphile qui a pris du plaisir avec des gens et qui leur renvoie l'ascenseur. Et ça, c'est devenu assez unique. Hein. C'est-à-dire
le
qu'on
cinéma
regarde,
comme moyen de ressusciter les morts.
C'est ça. Et de se constituer des familles. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose au sens psychanalytique peut-être très profond là-dedans. Mais il y a vraiment cette notion de ressusciter les morts. Vous voyez, même dans Once Upon a Time in Hollywood, c'est-à-dire c'est faire revenir Sharon Tate de la mort, c'est-à-dire ne pas montrer changer le cours du temps. Vous voyez, il y a une espèce comme ça de désir de construire son propre monde avec ses propres lois et sa propre temporalité.
Mais il y a un côté un peu mystique par moment chez lui quand il dit le cinéma est ma religion et Dieu est mon mécène.
Oui, parce que ça devient chez un certain type de cinéphile, vous savez, la salle de cinéma c'est presque un peu comme l'église, hein, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'y aller tous les jours, ils connaissent les dialogues comme certains connaissent les versets de la Bible. D'ailleurs, on voit même comment Samuel Jackson dans Pulp Fiction, qui est une sorte aussi de personnage mystique, quand même complètement allumé.
Ont un côté ange de la vengeance, hein, ces deux tueurs à gages.
Exactement. Et puis, ils ont quelque chose de fantomatique, ces deux types, dans Pulp Fiction. Vous voyez, à un moment, on leur tire dessus, puis ils sont pas morts. C'est-à-dire que donc l'autre se croit touché par la grâce divine. Hein, ça provoque un délire assez mystique chez lui. Et il y a quand même, si vous regardez bien Pulp Fiction sous l'angle de personnages qui se font tuer au début et qui sont un peu comme des zombies après, c'est-à-dire ils sont couverts de sang comme s'ils étaient le brigadier sanglant, vous voyez, de Buñuel, là, comment le fantôme de la liberté, un petit peu, quoi. Donc, il y a quelque chose d'un peu surréaliste aussi, hein, chez lui.
C'est là que les dialogues dont vous parliez, Laurent Vachaud, prennent toute leur ampleur. Certains sont devenus cultes aussi, hein, à l'image du film. On pense au dialogue entre Travolta et Samuel Jackson sur le Royal Burger,
oui,
c'est ça ?
Royal with Cheese. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est du dialogue décalé, c'est-à-dire que c'est tout d'un coup les faire parler d'autres choses, mais comme dans la vie, hein, souvent, des types qui vont faire un boulot, ils vont pas parler du boulot qu'ils vont faire, ils vont parler de ce qu'ils ont fait la veille. Donc là, tout d'un coup, il est devenu une de ses caractéristiques, c'est-à-dire de parler de quelque chose de complètement décalé. C'est-à-dire, et de quelque chose de la junk food, vous voyez, enfin, ce que lui doit consommer, j'imagine. Donc tout ça lui vient, en fait, de sa vie de tous les jours, hein, mais qu'il a réintégré là-dedans, et c'est ce qui a donné son sel, en fait, à ce film. Hein. C'est-à-dire, et puis après toute la conversation sur le massage des pieds avant d'aller tuer les mecs, bon, enfin, ça dure 20 minutes à peu près.
Et ça, c'est pour créer, entre guillemets, du désir avant la violence, c'est pour différer, pour alimenter la tension.
Mais je pense aussi que c'est quelqu'un qui est assez, qui est comique, c'est-à-dire que c'est drôle. Vous n'avez jamais un film de Tarantino qui se prend au sérieux. Après, c'est peut-être devenu aussi un problème. C'est-à-dire que ça le cantonne, hein, dans un certain style de cinéma comme
avec
ça.
Avec un procédé.
On rigole quand même tout le temps dans ces films. Hein. C'est quand même c'est une de ses grandes caractéristiques. Quoi.
Alors justement, on est intrigué, on est fasciné. C'est des dialogues effectivement très, très brillants et comiques. Et dans le même temps, comme le disait Sophie, ça tend beaucoup le spectateur. C'est-à-dire que ça rajoute beaucoup de tension au film.
Et puis ça dilate, c'est-à-dire que vous êtes dans l'attente, vous vous dites il va se passer un truc, hein, c'est-à-dire, il y a des gens qui vont se faire tuer, machin, mais vous ne savez pas encore quand ça va arriver. Et du coup, tous ces dialogues-là participent du suspense, un peu quelque part, de retarder une action qui, quand elle se produit, souvent dure quelques secondes. Hein, c'est-à-dire que c'est presque l'attente qui est plus importante.
Qui est plus douloureuse que l'événement lui-même. Alors la signature de Tarantino, on en reparlera avec vous, Laurent Vachaud, après Across 110th Street de Bobby Womack. Vous aurez reconnu la BO de Jackie Brown qui est diffusée en ce moment même en VO EVF sur la plateforme Arte TV et YouTube.
I was the third brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, trying to catch a woman next week. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. Ooh, baby. Across 110th Street, you can find it all. Shooting that dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you want to survive. The family
on the upper side of town. We'll catch hell if we find a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town.
Vous êtes bien sûr RFI dans tous les cinémas du monde avec notre invité Laurent Vachaud pour parler de Quentin Tarantino. Alors les BO de Tarantino, c'est tout un chapitre.
Voilà, c'est une dimension vraiment essentielle de son cinéma aussi. C'est cette capacité à trouver des musiques préexistantes parce qu'il demande rarement à un compositeur de composer de la musique. Hein. Je crois que c'est arrivé avec Ennio Morricone sur Les Huit Salopards, mais c'était quasiment exceptionnel parce qu'il réutilisait tellement de ses anciennes musiques qu'à un moment, il paraît que Morricone lui a téléphoné en disant « il y en a marre ». Demande-moi de te faire une musique originale. Et c'est comme ça qu'il lui a demandé pour Les Huit Salopards. Mais la plupart de ses musiques, ce sont des musiques déjà préenregistrées ou même des fois des musiques de films. Donc c'est une manière de du cinéaste, un peu comme un jukebox, vous voyez, qui sélectionne déjà à l'avance, souvent même, à mon avis, au stade de l'écriture, il sait déjà quelle musique il va utiliser.
Et là donc... aussi, il je ne sais pas s'il fait revivre les morts ou il réhabilite, mais je me souviens que à la sortie, la bande originale de Pulp Fiction était aussi à participer ou était concomitante. Absolument. Du succès du film.
Ah oui. Bon, y a plein de chansons qu'on avait oubliées ou qui n'étaient plus tellement à la mode qu'il a remises à la mode aussi. Hein. Il a fait avec la musique le même travail qu'avec les acteurs. Mais c'est quelqu'un qui vit un petit peu, je dirais pas qu'il vit dans le passé, mais c'est une espèce de no man's land, hein, c'est-à-dire que c'est à la fois contemporain et daté, vous voyez, c'est jamais, vous voyez, le monde d'aujourd'hui vraiment, c'est toujours les années 70, c'est toujours les années 60, c'est la guerre de 40, Reservoir Dogs c'est presque hors du temps, hein, ces gars sont habillés en costume noir, comme ça, ils gomment tous les effets de mode, enfin, on peut pas dater les films précisément, hein. Je pense que c'est un souci aussi pour que les films ne vieillissent pas, c'est-à-dire qu'il leur donne une patine qui est presque intemporelle.
Ah, vous pensez que c'est tout à fait fait sciemment ?
Oui, je pense aussi qu'il fonctionne. Il n'a pas grand-chose à dire aussi, je pense, sur l'époque actuelle. Je ne sais pas, hein, ce n'est pas une critique, hein, mais je pense que son inspiration, comme elle vient essentiellement du cinéma, il a tendance à partir, en tout cas, d'un film, souvent, ou d'un personnage qu'il a vu dans un film. Ça, c'est quelque chose... Mais même, vous voyez, quand il a écrit ce fameux livre hein, qui s'appelle Cinema Speculation, là où il donne un petit peu sa vision du cinéma, on retrouve exactement ce qu'il fait comme cinéaste. C'est-à-dire qu'il y a, tout d'un coup, il parle de Taxi Driver, et, en disant que c'est un film essentiel pour lui, et il imagine le Taxi Driver que Brian De Palma aurait fait. C'est-à-dire qu'il y a carrément un chapitre entier là-dessus.
Où c'est-à-dire que c'est De Palma, le court-circuitage voilà. Permanent, quoi, un c'est peu ça. Comme Uma Thurman à la frange d'Anna Karina.
Ouais, mais c'est surtout aussi de se dire, tiens, de refaire le truc, mais si... Vous voyez, quand il fait, quand il change le cours de l'histoire dans Inglourious Basterds ou dans Once Upon a Time in Hollywood, c'est une façon de dire, voilà, moi je pense que lui il l'aurait fait comme ça, moi je l'aurais fait comme ça, c'est-à-dire c'est de prendre un matériau et de finalement le faire autrement.
Est-ce que c'est l'ordre de l'exercice de style ? Parce qu'on a pas mal parlé de Tarantino, en tout cas au début, comme d'un recycleur de génie.
Ouais, mais il y en a plein des recycleurs, hein. C'est-à-dire vous en voyez plein, c'est comme les cinéastes de la Nouvelle Vague, il y en a plein qui ont essayé de faire des films genre À bout de souffle, vous voyez, tout ça, mais c'est vous imiter. Donc c'est aussi quelqu'un qui a fait une œuvre personnelle à partir d'œuvres préexistantes. Et c'est en ça que je pense que Tarantino est plus proche de De Palma que de Scorsese, parce que lui a la même démarche aussi. Quoi.
Est-ce que Tarantino a de l'humour dans la
oui,
vie
oui, non. Mais
quand
moi, je l'ai rencontré deux fois, enfin surtout une fois où j'ai plus parlé le plus longtemps. Il est raccord, enfin, vous l'avez tous vu, enfin, il est exactement comme ça, cette espèce de débit de mitraillette.
C'est une bête de scène.
Un peu pareil,
ça, c'est
aussi. C'est des gens qui parlent extrêmement rapidement, mais c'est un show, quoi. C'est-à-dire que vous avez l'impression de voir un type qui fait du stand-up. Donc là, il y a cette dimension chez lui aussi. Hein. C'est un type très drôle.
Après le succès colossal de Pulp Fiction, Tarantino continue à explorer et à surprendre avec un nouveau genre qu'il adore, le film de sabre, moulé dans une combinaison jaune et noire, Black Mamba, c'est le nom de Uma Thurman dans le film. Black Mamba ressuscite d'entre les morts et entreprend d'éliminer les membres du gang qui l'ont mis au tapis.
Bouge le gros orteil. Étendu à l'arrière du pick-up de Puck, tout en essayant de ramener mes membres à la vie. Bouge le gros orteil. Je revoyais les visages des salauds qui m'avaient fait ça. Et du fumier qui les dirigeait. Tous étaient membres du détachement international des vipères assassines. Quand la chance favorise une chose aussi laide et violente que la vengeance, on y voit une preuve irréfutable, non seulement que Dieu existe, mais qu'on agit selon sa volonté. Alors que j'ignorais encore à peu près tout de mes ennemis, la première sur ma liste, Oren Ishii fut la plus facile à trouver. puisque bien évidemment, lorsqu'on s'attelle à la tâche délicate de devenir la reine de la pègre à Tokyo, on ne se prive pas de le faire savoir.
Un extrait de Kill Bill, volume 1, 2003. La vengeance, bien sûr, il est au cœur de ce film, comme de beaucoup d'autres, presque tous, hein, de Quentin Tarantino. Ici, c'est une femme qui l'exerce. Est-ce que pour autant, c'est un film féministe, hein, comme on l'a beaucoup dit à l'époque? En fait, est-ce qu'on peut dire qu'il aborde quand même les films, les personnages de femmes au prisme de son fétichisme, Tarantino?
Ah oui, oui, bah oui, oui. Non, mais ça, on a tous remarqué. Hein, il est complètement fétichiste des pieds, donc il met il y a toujours des plans de pieds de femmes dans ces films. Ça a été souvent répertorié. Mais après, est-ce qu'on est féministe parce qu'on montre des personnages de femmes forts qui se vengent des mecs? Vous voyez, bon, c'est quand même une vision, je pense, un peu réductrice. Hein, et qui souvent, moi, je pense qu'il aime filmer des actrices. Il y a des actrices, je pense qu'il aimait beaucoup filmer Uma Thurman. Donc, ça permettait de faire un film entier pour la filmer sous toutes les coutures. Il leur donne des rôles forts, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas beaucoup de rôles forts dans le cinéma américain pour des femmes, et notamment des femmes de l'âge de Pam Grier dans Jackie Brown. Donc il sait écrire quand même des personnages féminins forts. On dit que c'est parce qu'il a été élevé par sa mère, par une mère célibataire, que le père s'était barré, donc il assimile sa mère au personnage féminin. Ça, c'est de la psychanalyse sauvage, hein, qu'on fait après coup. Je crois pas beaucoup à ces trucs-là. Je pense surtout que c'est quelqu'un qui est un peu, qui se cherchait une actrice comme, Sternberg avait trouvé Marlène. Donc lui, il voyait Uma Thurman comme ça, un petit peu. Hein. Il se disait que c'était un peu sa muse. Et il a quand même fait. Alors après, est-ce qu'il y avait besoin de faire deux Kill Bill, hein, vous voyez, après, c'est là aussi où il a checké ouvert avec les producteurs. Hein, c'est-à-dire que la plupart des producteurs lui auraient dit, écoute, t'es gentil, mais un film de 3 heures, ça va suffire.
Le producteur, c'est Weinstein.
C'était Weinstein. Donc, comme c'est lui qui avait carrément fait le succès de leur boîte, c'était difficile après de commencer à lui dire qu'il ne fallait pas faire ça parce qu'il y avait la peur qu'il aille ailleurs. Hein, donc, c'était quand même un petit peu la vache à lait de Miramax, Tarantino. Mais en dehors de ces considérations-là, il a quand même continué à faire des rôles de femmes forts. Et en même temps, il y a des films où je trouve que les femmes sont assez clichés. Vous voyez, donc vraiment, on peut pas dire que c'est un cinéaste franchement féministe. Hein. Je crois pas, en tout cas.
Et il a tourné avec nombre d'autres grandes actrices par la suite. Plus jamais avec Uma Thurman, qui a eu un grave accident de voiture, entre autres, ouais. sur le plateau. Un accident avéré, hein, qui lui a laissé des séquelles à vie. Est-ce qu'il y a une méthode, Tarantino, sur les plateaux
de direction d'acteur?
Oui, alors il paraît qu'il mime beaucoup, il paraît. C'est-à-dire qu'il est derrière la caméra, il paraît qu'il fait des gestes comme ça, notamment la fameuse scène de Twist, hein, dans Pulp Fiction, il paraît qu'il dansait à côté des acteurs.
Il est toujours très proche de ses acteurs.
Il faisait les mouvements comme ça, donc en les répétitions, il l'avait vu bouger à côté d'eux, donc il s'inspirait aussi des gestes qu'il faisait. Enfin, c'est Travolta qui avait raconté ça, notamment, vous savez, les fameux gestes comme ça, genre Batman ou tout truc. Ça, c'était lui qui leur avait montré. Moi, je pense que c'était un grand enfant enthousiaste. Enfin, tous les acteurs qui ont joué pour Tarantino ont mis en avant quand même l'enthousiasme qu'il a devant les performances, hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un derrière la caméra qui rigole, qui s'excite et tout ça. Donc je pense pour un acteur c'est extrêmement valorisant, excitant. Quoi.
Il insiste beaucoup aussi pour que les cascades se fassent sans trucage.
Il n'aime pas beaucoup
les effets spéciaux.
Qu'il est old school. Il est old school. C'est ça. Hein, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime que tout soit fait en direct parce qu'il a aimé ces films-là. Hein. Après, je pense qu'il n'a pas complètement tort. Hein. Je pense que même à un autre niveau, des gens comme Tom Cruise qui prennent des risques comme ça, pour faire des cascades alors qu'on se dirait aujourd'hui, il suffit de faire ça sur un écran vert. Je pense que les gens, quand ils savent que c'est vrai, ils ne regardent pas de la même manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne croit plus les images. Tout est possible. Vous pouvez voir des gens exploser en l'air. Mais quand vous savez qu'il l'a fait pour de vrai, je pense que ça amène quand même toujours quelque chose de supplémentaire.
Il a revisité le film de gangster, le film de sabre, le western Spaghetti. Qu'est-ce qui lui reste? En 2009, Quentin Tarantino s'attaque au film de guerre avec Inglourious Basterds, une histoire de vengeance, encore une, sur fond de Deuxième Guerre mondiale. L'héroïne, c'est Shoshana, Mélanie Laurent, la seule survivante d'une famille juive. À l'affiche, un colonel nazi, Christoph Waltz, une résistante allemande, Diane Kruger, et un commando de juifs qui scalpent leurs prisonniers, les fameux Inglourious Basterds.
Vous commencez à expliquer l'origine de votre possession du cinéma.
À l'origine, le cinéma appartenait à ma tante et à mon oncle.
Comment s'appelait-il?
Jean-Pierre et Adam Mignot.
Où sont-ils à présent?
Mon oncle a été tué pendant la Blindstream.
Oh, la vraie. Continuez.
Tante Ada est morte de fièvre au printemps dernier.
Regrettable. On m'a été signalé que vous employez un nègre. Est-ce vrai?
Oui. C'est un français.
français. Il s'appelle Marcel. Il a travaillé avec mon oncle, ma tante et mon oncle depuis l'ouverture du cinéma. C'est la seule personne qui travaille avec moi.
Faire quoi ?
Projectionniste.
Il est valable ?
C'est le meilleur.
En fait, on peut voir en quoi ce peut être un bon métier pour eux.
Dialogue au restaurant entre Mélanie Laurent et Christophe Waltz, en français, s'il vous plaît. C'est son premier tournage où il touche à d'autres langues. Là, il y a toute une partie du film qui est en français, Laurent Vachon.
Oui, oui, et puis même de l'allemand, hein. Il me semble. Oui, non, mais Glorious Bastards, il y a quand même, ce qu'il faut quand même voir, c'est que c'est toujours dans cette idée de, il y a quand même cet acteur allemand incroyable qui trouve, hein, c'est-à-dire pour jouer le personnage du Hans Landa, il s'appelle, je crois, le colonel nazi. Il disait que s'il n'arrivait pas à trouver l'acteur, il était capable de renoncer au film. C'est-à-dire qu'il avait tellement décidé que c'était un personnage important comme ça du film qu'il était capable de renoncer s'il ne trouvait pas l'acteur adéquat. Et ce qui est vraiment frappant, c'est qu'il va chercher en fait un type qui a, je ne sais pas quel âge il avait, Christophe Waltz, quand il a fait ça, mais il était plutôt jeune. Il avait bien, à mon avis, déjà près de 50 ans ou plus. Et on voit, ce qui est formidable quand on regarde le film, et on voit ça dans quelques films comme ça, c'est de voir le type qui se dit « j'ai la chance de ma vie ». Là, c'est le truc. J'ai attendu ça toute ma vie, et on voit le type qui non seulement n'est pas écrasé par la charge que ça peut représenter, mais se sent comme un poisson dans l'eau et donne son maximum. C'est-à-dire que vous avez ce gars qui joue tout d'un coup, et qui était sûrement un type qui jouait des rôles de télévision, qui n'était pas un acteur même de premier plan. Moi, j'en avais jamais entendu parler personnellement, hein, avant Inglorious Bastards. Et on voit tout d'un coup ce type qui joue comme jamais on a vu ça. Je trouve quand même que il faut pouvoir le faire, de trouver un acteur, de le mettre en confiance comme ça quand vous avez autour Brad Pitt. Vous voyez des gens comme ça, et on ne voit que lui dans le film. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui a pris tout d'un coup une dimension et qu'on a vu après dans l'autre, là, comme en Django Unchained. Et je pense que c'est quelqu'un qui sait miser, il sait faire confiance, parce que la plupart des metteurs en scène, ils ont peur de prendre un inconnu si jamais ça marche pas et tout ça. Lui, il n'a pas peur. C'est-à-dire que quand il est tellement sûr de lui, et ça, là, l'assurance de Tarantino, l'assurance d'un metteur en scène sur son matériau, la confiance en soi qu'il faut avoir pour faire un film comme ça, et ça, je parle même de tous les metteurs en scène, hein, c'est un métier où il faut une confiance en soit incroyable parce que tout le monde vous fait douter. Là, il y a eu une confiance inébranlable entre un type qui n'avait jamais rien fait et qui allait être l'acteur principal du film. Bah, il faut quand même le saluer parce que c'est pas tout le monde qui sait réussir ça. Quoi.
Et puis, pour que les acteurs conduisent, comme vous le disiez tout à l'heure, des dialogues complètement débiles, mais en même temps hilarant et extrêmement bien écrit, et que ça captive les spectateurs et que ça devienne culte, il faut être un grand, grand... Là, je pense plutôt à Travolta, Samuel L. Jackson, mais il faut être un grand directeur d'acteur.
Non, mais il faut être un dialoguiste de génie, il faut être un très, très grand directeur d'acteur. C'est un très grand cinéaste. Après, on peut... On pointera peut-être, en tout cas moi, en ce qui me concerne, quelques limites, hein, mais il n'y a aucune question à ce niveau. C'est quelqu'un qui sait, en tout cas, dans son univers propre, ça, c'est une dimension aussi qu'il faut souligner, c'est quelqu'un qui écrit ses scénarios. C'est-à-dire, c'est quelqu'un souvent même qui écrit des scénarios originaux. Aujourd'hui, plus personne ne fait ça. C'est-à-dire que c'est pratiquement des adaptations, des suites. Je crois qu'il y a Jackie Brown, qui est une adaptation, hein, d'un roman de Elmore Leonard, mais absolument, qui l'a complètement modifié, puisque le personnage n'est pas noir dans le roman. Mais c'est quelqu'un qui écrit ses scénarios, quoi. Et ça, c'est un auteur-réalisateur. Il n'y a pas beaucoup de gens à Hollywood aujourd'hui qui font ça, hein. C'est-à-dire qu'ils continuent à vouloir faire un cinéma d'auteur, quelque part. Et ça fait partie de son identité. Je vois mal Tarantino mettre en scène le scénario de quelqu'un d'autre, vous voyez, aujourd'hui, quoi. Donc, la seule limite que je vois à son cinéma, en tout cas, moi, pourquoi, même si j'aime Once Upon a Time in Hollywood, je trouve que c'est quelqu'un, finalement, qui n'a pas énormément mûri. C'est-à-dire que quand vous regardez Pulp Fiction, Reservoir Dogs, qui sont des films éblouissants pour un type de son âge, je trouve pas qu'avec le temps, il y a eu une maturation, il y a eu quelque chose où on se dit, tiens, le Tarantino de quand il avait 30 ans, c'est pas le même que celui de quand il en avait 60, vous voyez. Normalement, les metteurs en scène, on aime bien voir une maturation, un propos qui s'affine ou qui change. Moi, j'ai l'impression que ces derniers films sont un peu dans le même esprit quand même, même s'il y en a qui vantent le côté mélancolique de Once Upon a Time in Hollywood.
Alors, on en reparlera tout à l'heure, Laurent Vachon. Juste, je voudrais parler de ce qui a fait polémique au moment de la sortie d'Inglorious Bastards, parce que vous parliez tout à l'heure de sa confiance en lui, et c'est aussi un provocateur.
Ouais.
Et Hitler meurt dans son film, comme plus tard Sharon Tate va ressusciter,
échapper
à la mort dans Once Upon a Time in Hollywood. Donc, y a quelque chose de très provocateur. On parle aussi du N-word, du mot nigger, totalement banni aux États-Unis, qui va être répété des dizaines de fois dans le film Django Unchained. On va écouter Christoph Waltz, justement, qui réagit à cette question de la torsion de l'histoire dans les films de Tarantino.
He didn't change history, nor does he ever claim to do that. But he's doing exactly the quintessential task of what storytelling is all about. What if?
Voilà, je le traduis. Il n'a pas changé l'histoire, il n'a jamais prétendu l'avoir fait, mais il pose la question essentielle de toute narration. Et si? Alors, est-ce que c'est juste son côté potache, il se fait, son côté éternel ado, il se fait plaisir, ou le cinéma comme monde en soi?
Vous savez, je pense qu'au bout d'un moment, c'est un type qui a élaboré un univers propre. C'est le Tarantino Land, presque tous ses films. Et quelque part, dans le Tarantino Land, le monde ne fonctionne pas comme dans le monde normal. C'est-à-dire que c'est lui qui dicte les règles. C'est lui qui dit quand est-ce que le temps s'arrête, quand est-ce qu'on revient en arrière, quand est-ce qu'on va en avant, comment tout d'un coup les nazis peuvent se faire assassiner dans un cinéma. Enfin,
les choses c'est le plaisir absurdes. D'être Dieu, en fait.
C'est le plaisir d'être Dieu. Chaque metteur en scène a ce God complexe un petit peu, quoi. Donc là, je pense qu'il y a une volonté de se dire, il a tellement foi dans le cinéma, dans le pouvoir du cinéma, qu'il se dit, voilà, je peux changer l'histoire en faisant ça. Bon, après, le problème aujourd'hui, c'est, on peut discuter, c'est notamment plus dans Once Upon a Time in Hollywood que dans Inglourious Basterds, parce que la plupart des gens aujourd'hui même savent que Hitler n'est pas mort dans un cinéma. Mais on peut se dire, il y a des gens qui peuvent prendre ça au pied de la lettre. Et quand vous prenez des libertés avec l'histoire comme ça, vous sous-entendez que le public est au courant de la vraie histoire, ce qui aujourd'hui peut prêter à confusion dans une certaine catégorie du public.
Dans le film suivant, Retour au calme, encore que, dans Once Upon a Time in Hollywood, dont on va écouter un extrait, Laurent Vachaud, Quentin Tarantino suit les déambulations d'un acteur de télévision, Rick Dalton, c'est Leonardo DiCaprio, et de son ami et cascadeur Cliff Booth, c'est Brad Pitt.
Écoute, moi j'ai jamais eu de carrière digne de ce nom, alors j'ai du mal à me mettre à ta place.
C'est quoi cette histoire? T'es ma doublure cascade, merde.
Non, Rick, moi je suis ton chauffeur, je suis ton homme à tout faire. Je vais pas me plaindre non plus. Moi, j'aime bien te conduire partout. J'aime bien bricoler chez toi et te garder ta villa sur les hauteurs d'Hollywood quand tu t'absentes. Mais ça fait un bail que j'ai pas été cascadeur à plein temps. Et du coup, à mon humble avis, aller tenir la vedette dans des films en Italie, ça me semble pas être la mort, contrairement à ce que tu dis.
Tu me fais rire, toi. T'en as vu de ces... C'est western spaghetti, hein? Ils sont affreux, c'est des putains de bouffonneries.
Dans Once Upon a Time in Hollywood, donc film de 2019, son dernier en date, Tarantino évoque le Hollywood de son enfance. C'est la fin des années 60, c'est un moment charnière à travers les péripéties du duo Leonardo DiCaprio-Brad Pitt. D'ailleurs, Leonardo DiCaprio qui est à ce jour un peu son acteur fétiche. Est-ce qu'il y a de la nostalgie chez Tarantino?
Oh oui, je pense, oui. Notamment dans ce film-là, je pense quand même qu'il y a une vision d'un point charnière dans l'histoire même du cinéma américain, puisqu'on est juste avant le nouvel Hollywood. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'il s'intéresse au hallebardier un peu. C'est-à-dire qu'il ne va pas raconter la vie de Roman Polanski ou de Sharon Tate. Il prend des figures qui sont des
nobody. Couteau.
Voilà, un acteur raté, son homme à tout faire, chauffeur, cascadeur, qui trimballe avec lui partout. Mais ça, c'est vrai. À Hollywood, vous avez beaucoup de gens comme ça qui se baladent avec un type comme ça. Des sidekicks, comme on dit. Mais là, ce qui est touchant, moi, je trouve, c'est ce personnage que joue Leonardo DiCaprio, de Rick Dalton, qui est un type, en gros, qui a un feuilleton télé un peu à la mode, mais qui est déclinant et qui ne sait pas quoi faire pour essayer de revenir sur le devant de la scène et qui cherche comme ça des petits boulots. On lui propose maintenant de jouer les méchants dans des... C'est un personnage assez pathétique, c'est-à-dire qui est en même temps drôle et touchant. Et surtout, son sidekick, là, son collègue, qui est joué par Brad Pitt, en gros, se borne simplement à conduire la voiture, à avoir un sourire niais. Mais curieusement, le personnage de Brad Pitt, je trouve, a tiré les marrons du feu. C'est-à-dire que les gens ont presque plus aimé le personnage. Enfin, alors, je trouve que ce que fait DiCaprio est très difficile, parce que c'est un rôle extrêmement ingrat, le rôle de Rick Dalton. Et l'autre a le beau rôle, finalement. Il enlève sa chemise sur le toit, il montre ses biscottos, il est tout le temps en train de sourire aux filles. Enfin, bon.
Une scène qui est devenue culte pour beaucoup de femmes.
Voilà, mais disons que quand un acteur lit le scénario, je pense qu'il a plus envie de jouer le rôle de Brad Pitt que de jouer le rôle de DiCaprio, qui est un peu le loser, hein, qui doit prendre du poids à la fin, tout ça.
Une forme de faire-valoir aussi.
Et je pense qu'on, oui, elle est de faire-valoir. Et je trouve que la performance de DiCaprio n'a pas été assez mise en avant. On a beaucoup parlé de Brad Pitt, qui a d'ailleurs eu l'Oscar, hein, du second rôle, et alors que l'autre, non. Et je trouve, moi, que DiCaprio fait une performance qui est assez formidable dans ce film, quoi, parce qu'il essaye justement de ne pas tirer la couverture à lui. Et ils font un buddy movie quelque part. Hein. Je dis pas que c'est Butch Cassidy et le Kid, mais il y a quand même cette époque aussi où on faisait des duos d'acteurs masculins. Hein. Il y avait Paul Newman et Robert Redford qui en ont fait plusieurs ensemble. Ben là, quand même, je trouve que ces deux-là ont réussi à créer comme ça un duo de personnages complètement inoubliable, un petit peu comme les deux tueurs de Pulp Fiction. Donc, il sait faire ça quand même.
Vous, Laurent Vachaud, si vous aviez à conseiller à un auditeur qui n'aurait jamais vu de film de Tarantino de piocher quoi? Dans ce cycle Arte.
Ah, les films, quel film choisir?
Pour commencer.
Moi, je pense quand même que celui que je préfère et je pense quand même le plus séminal, c'est Pulp Fiction. Hein. Je crois que c'est quand même celui dans lequel il y a tout. Hein. C'est-à-dire que pratiquement tous les autres sortent de là, quelque part. Après, ça dépend des goûts. Hein. Moi, je trouve après que. Il procure, en tout cas, c'est un metteur en scène qui communique son plaisir de faire du cinéma, qui devient pour le spectateur un plaisir de regarder le film. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de cette euphorie, comme ça, ce pouvoir euphorisant du cinéma. Il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui savent le communiquer. Hein, c'est-à-dire que lui sait le communiquer. La plupart des gens adorent d'ailleurs regarder ses films. Elle le voit des fois plusieurs fois parce que c'est agréable. C'est-à-dire comme quand vous regardez, chaque fois que vous regardez quelque chose qui est très bien fait, que ce soit une comédie musicale où il y a un ballet très bien réglé, là c'est quand même tout est au cordeau. Après on a des sensibilités plus ou moins selon les films. Moi je connais des gens qui aiment pas du tout le cinéma de Tarantino. Hein. Si vous aimez pas la violence, si vous aimez pas les personnages de gangsters,
si vous n'aimez pas l'humour,
voilà, si vous n'aimez pas ce genre d'humour,
on se retrouve dans un film de Godard.
Voilà, vous risquez rester au bord de la route. Oui.
Mais surtout, Tarantino donne envie de faire du cinéma.
Absolument.
Et c'est peut-être pour ça qu'il a cette aura de star du rock qu'aucun cinéaste contemporain ne peut égaler.
Il a montré aux gens qu'on pouvait être vendeur de vidéoclubs et devenir une énorme star. Alors bon, je pense qu'il y a quand même une sacrée dose de talent qu'il avait, que tout le monde n'a pas. Hein. Il ne faut quand même pas croire que c'est d'être vendeur de vidéos qui vous permet de devenir... Mais la comparaison qu'on faisait était très juste. Ce n'est pas parce que vous allez à la cinémathèque tous les jours voir des films que vous allez devenir réalisateur. Hein. Je pense que ça permet peut-être d'apprendre plus vite, mais il y a quand même le talent à la base que vous avez ou pas. Alors après, moi, je vous dis, la réserve que j'ai simplement, c'est que je trouve qu'il n'a pas tellement mûri. Je trouve ça dommage. C'est-à-dire, je trouve ça dommage de voir un Tarantino de 60 ans qui continue à faire un peu les films qu'il faisait quand il avait 30 ans. C'est-à-dire que c'est devenu c'est un peu en circuit fermé. Alors qu'un grand metteur en scène, et je pense qu'il en est un, devrait pouvoir avoir plusieurs périodes, hein, tout ça. Mais je ne vois pas quelqu'un qui, tout d'un coup, se réinvente ou qui, avec l'âge ou avec l'expérience, filme les choses un peu différemment.
Merci beaucoup Laurent Vachaud.
Merci.
On se quitte sur la BO de Django Unchained et je rappelle le cycle que lui consacre Arte. 5 films dont Reservoir Dogs, Les Deux Kill Bill, Jackie Brown et Boulevard de la Mort, plus 2 documentaires disponibles sur Arte TV et YouTube jusqu'au mois de septembre. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin
et Elisabeth Le Quéré, à la réalisation Apolline Verlon et Mathieu Badre.
On se retrouve la semaine prochaine. On parlera d'un film qui a fait sensation à Cannes en mai dernier, Le Rire et le Couteau, tourné en Guinée-Bissau. Retrouvez-nous samedi prochain et d'ici là, bonne semaine à tous.